Somnifère, le podcast.
Somnifère, c'est un podcast en deux parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somniferelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit.
Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer.
Le mensonge peut cacher temporairement la vérité, mais il oublie qu'aucun nuage ne peut cacher éternellement le soleil, écrit Mazouz Hassen. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 17 novembre, et ce soir, Somnifère vous raconte le terrible secret d'Herbert Gutmann, une nouvelle de Gaston Leroux à découvrir en deux parties et intitulée « La hache d'or ». Si vous aimez Somnifère, merci de prendre quelques secondes pour vous y abonner ou le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Trouvez une position confortable et détendez-vous. Commencez, comme d'habitude, par prendre une grande inspiration par le nez et expirez à votre rythme. Laissez vos bras reposer le long de votre corps qui se repose sur le matelas de tout son poids. Concentrez-vous sur votre respiration qui devient calme et régulière. Et refermez mentalement la page de cette journée. Qu'elle fût bonne ou non, que vous soyez impacté ou non par la crise sanitaire, par le couvre-feu, par les émotions négatives accumulées en réaction à l'actualité, que cette journée ait été plaisante ou au contraire stressante, que vous ayez été triste ou heureux, que vous ayez reçu de bonnes ou de mauvaises nouvelles, à cet instant, en réalité, peu importe. Cette journée est maintenant terminée. Laissez votre esprit lentement déconnecter et refermez le livre de votre vie pour quelques heures. Appréciez le calme, le silence, la chaleur réconfortante de votre couverture, le confort des appuis de votre corps contre le matelas, et laissez votre esprit se mettre en veille. Si des pensées vous viennent à l'esprit, observez-les simplement aller et venir, se dissoudre et recentrez-vous sur votre respiration, sur l'air qui entre et sort de vos narines. Nous entrons dans une période de l'année où la lumière se fait rare. La météo est sombre, beaucoup d'entre nous avons du mal à nous détendre, à gérer notre stress, nos émotions, à nous concentrer, à positiver. Il devient d'autant plus important de prendre du temps pour soi, de s'aérer l'esprit, de se forcer à rester actif, à manger sainement et à prendre quelques minutes chaque jour pour méditer dans le calme et le silence. « À présent, sentez votre tête devenir lourde et s'enfoncer dans votre oreiller. Détendez votre nuque et relâchez complètement les épaules. Desserrez la mâchoire, détendez votre front et vos sourcils. Prenez quelques instants pour observer l'air qui passe dans vos narines, qui gonfle vos poumons et votre ventre. Et vous laisse de plus en plus détendu. Votre ventre, votre bas-ventre et vos hanches sont complètement relâchés. Vous êtes calme et détendu.
L'histoire du soir.
Il y a de cela bien des années, je me trouvais à Guersau, petite station sur le lac des Quatre Cantons, à quelques kilomètres de Lucerne. J'avais décidé de passer là l'automne pour y terminer quelques travaux dans la paix de ce charmant village qui mire ses vieux toits pointus dans une onde romantique où glissa la barque de Guillaume Tell. En cette arrière-saison, les touristes avaient fui. À la table d'hôte, on se trouva tout au plus une demi-douzaine de pensionnaires qui sympathisaient et le soir venu se comptaient les promenades du jour ou faisaient un peu de musique. Une vieille dame, toujours enveloppée de voiles noirs, qui, lorsque le petit hôtel était plein de voyageurs bourdonnants, n'avait jamais adressé la parole à personne, et qui nous était toujours apparue comme la personnification de la tristesse, se révéla pianiste de premier ordre et, sans se faire prier, nous joua du Chopin et surtout une certaine berceuse de Schumann dans laquelle elle mettait une si divine émotion qu'elle nous en faisait venir les larmes aux yeux. Nous lui fûmes tous si reconnaissants des heures douces qu'elle nous avait fait passer, au moment du départ, à la veille de l'hiver, nous nous cotisâmes pour lui offrir un souvenir de notre saison à Guersau. L'un de nous, qui se rendait dans la journée à Lucerne, fut chargé d'acheter le cadeau. Il revint le soir avec une broche en or qui représentait une petite hache. Or ce soir-là, ni le suivant, on ne revit la vieille dame. Les pensionnaires qui partaient me laissèrent la hache d'or. Les bagages de la dame n'avaient pas quitté l'hôtel et je m'attendais à la voir revenir d'un instant à l'autre, rassurée sur son sort par l'aubergiste qui me disait que la voyageuse était coutumière de ses fugues et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. De fait, la veille de mon départ, comme je faisais un dernier tour du lac et que je m'étais arrêté à quelques pas de la chapelle de Guillaume Tell, je vis apparaître sur le seuil du sanctuaire la vieille dame. Jamais comme en ce moment, je n'avais été frappé de l'immense désolation de son visage que sillonnaient de grosses larmes, et jamais encore je n'avais si bien remarqué les traces encore visibles de son ancienne beauté. Elle me vit, baissa sa voilette et descendit la rive. Cependant, je n'hésitais point à la rejoindre, et la saluant, lui fit part des regrets des voyageurs. Enfin, comme j'avais le cadeau sur moi, je lui remis la petite boîte dans laquelle se trouvait la hache d'or. Elle ouvrit la boîte avec un doux et lointain sourire, mais aussitôt qu'elle eut aperçu l'objet qui était dedans, elle se prit à trembler affreusement, se recula loin de moi comme si elle avait à redouter quelque chose de ma présence, et d'un geste insensé, jeta la hache dans le lac. J'étais encore stupéfait de cet accueil inexplicable qu'elle m'en demandait pardon en sanglotant. Il y avait là un banc dans cette solitude. Nous nous y assîmes, et après quelques plaintes contre le sort auquel je ne compris rien, voici l'étrange récit qu'elle me fit, la sombre histoire qu'elle me confia et que je ne devais jamais oublier. Car en vérité, je ne connais pas de destin plus effroyable que celui de la vieille dame au voile noir, qui nous jouait avec tant d'émotion la berceuse de Schumann. « Vous saurez tout, » me dit-elle, « car je vais quitter pour toujours ce pays que j'ai voulu revoir une dernière fois. Et alors vous comprendrez pourquoi j'ai jeté dans le lac la petite hache d'or. Je suis né à Genève, monsieur, d'une excellente famille. Nous étions riches, mais de malheureuses opérations de bourse ruinèrent mon père qui en mourut. À 18 ans, j'étais très belle, mais sans dot. Ma mère désespérée de me marier. Elle eût voulu, cependant, assurer mon sort avant d'aller rejoindre mon père. J'avais 24 ans quand un parti, que tout le monde jugeait inespéré, se présenta. Un jeune homme du pays de Brisgau qui venait passer tous les étés en Suisse et dont nous avions fait connaissance au casino d'Evian, s'éprit de moi et je l'aimais. Herbert Gutmann était un grand garçon doux, simple et bon. Il paraissait unir les qualités du cœur à celles de l'esprit. Il jouissait d'une certaine aisance sans être riche. Son père était encore dans le commerce et lui faisait une petite rente pour voyager en attendant qu'Herbert prît sa suite. Nous devions aller tous ensemble voir le vieux Gutmann dans sa propriété de Todenau, en pleine forêt noire, quand la mauvaise santé de ma mère précipita singulièrement les événements. Ne se sentant plus la force de voyager, ma mère revint en hâte à Genève, où elle reçut des autorités civiles de Todenau, sur sa demande, les meilleurs renseignements concernant le jeune Herbert et sa famille. Le père avait commencé par être un humble bûcheron. Puis il avait quitté le pays et y était revenu ayant fait une petite fortune dans les bois. C'est du moins tout ce que l'on savait de lui à Todenau. Il n'en fallut pas davantage à ma mère pour qu'elle hâtât toutes les formalités qui devaient aboutir à mon mariage, 8 jours avant sa mort. Elle mourut en paix et, comme elle disait, rassurée sur mon sort. Mon mari, par tous les soins dont il m'entoura et son inlassable bonté, m'aida à surmonter la douleur d'une aussi cruelle épreuve. Avant de retourner auprès de son père, nous vîmes passer une semaine dans ce pays à Guersau, puis, à mon grand étonnement, nous entreprîmes un long voyage, toujours sans avoir vu le père. Ma tristesse se serait peu à peu dissipée si, au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, je ne m'étais aperçu presque avec effroi que mon mari était d'une humeur de plus en plus sombre. Cela m'étonna au-delà de toute expression, car Herbert, à Evian, m'était apparu d'un caractère plaisant et très en dehors. Devais-je découvrir que toute cette gaieté d'alors était factice et cachait un profond chagrin? Hélas, les soupirs qu'il poussait quand il se croyait seul et le trouble parfois inquiétant de son sommeil ne me laissaient guère d'espoir, et je résolus de l'interroger. Aux premières paroles que je risquais là-dessus, il me répondit en riant aux éclats, en me traitant de petite tête folle et en m'embrassant passionnément. Toutes démonstrations qui ne servirent qu'à me persuader davantage que je me trouvais en face du plus douloureux mystère. Je ne pouvais me cacher qu'il y avait, dans la façon d'être d'Herbert, quelque chose qui ressemblait de bien près à des remords. Et cependant, j'aurais juré qu'il était incapable d'une action, je ne dis pas basse ou vile, mais même indélicate. Sur ces entrefaites, le destin qui s'acharnait après moi nous frappa dans la personne de mon beau-père, dont nous apprîmes la mort alors que nous nous trouvions en Écosse. Cette nouvelle funeste abattit mon mari plus que je ne saurais dire. Il resta toute la nuit sans me dire un mot, ne pleurant pas, ne semblant même pas entendre les douces paroles de consolation dont j'essayais à mon tour de relever son courage. Il paraissait assommé. Enfin, aux premières lueurs de l'aube, il se leva du fauteuil où il s'était écroulé, me montra un visage effroyablement ravagé par une douleur surhumaine et me dit d'un ton déchirant « Allons, Élisabeth, il faut revenir. » Ces dernières paroles paraissaient avoir dans sa bouche et avec le ton qu'il les disait un sens que je ne comprenais pas. C'était une chose si naturelle que le retour au pays de son père dans un moment comme celui-là que je ne pouvais saisir la raison pour laquelle il semblait lutter contre cette nécessité de revenir. À partir de ce jour, Herbert changea du tout au tout, devint terriblement taciturne, et je le surpris plus d'une fois, sanglotant éperdument. La douleur causée par la perte d'un père bien-aimé ne pouvait expliquer toute l'horreur de notre situation, car il n'y a rien de plus horrible au monde que le mystère, le profond mystère qui se glisse entre deux êtres qui s'adorent pour les écarter soudain l'un de l'autre aux heures les plus tendres et les faire se regarder l'un l'autre, éperdus, sans se comprendre. Nous étions arrivés à Todno, juste à temps pour prier sur une tombe toute fraîche. Ce petit bourg de la forêt noire, qui s'élève à quelques pas du Val d'Enfer, était lugubre et il n'y avait guère là de société pour moi. La demeure du vieux Gutmann, dans laquelle nous nous installâmes, se dressait à la lisière du bois. C'était un sombre chalet isolé qui ne recevait d'autres visites que celle d'un vieil horloger de l'endroit que l'on disait riche, qui avait été l'ami du vieux Gutmann et qui survenait de temps à autre à l'heure du déjeuner ou du dîner pour se faire inviter. Je n'aimais point ce fabricant de couscous, prêteur à la petite semaine, qui, s'il était riche, était encore plus avare et incapable de la moindre délicatesse. Herbert non plus n'aimait point Frank Baxler, mais par respect pour la mémoire de son père, continuait de le recevoir. Baxler, qui n'avait point d'enfant, avait promis maintes et maintes fois au père qu'il n'aurait point d'autre héritier que son fils. Un jour, Herbert me parla de cela avec le plus franc dégoût et j'eus encore là l'occasion de juger son noble cœur. « Te plairait-il, me disait-il, d'hériter de ce vieux Grigou dont la fortune est faite de la ruine de tous les pauvres horlogers du Val d'Enfer ?»« Certes non, lui répondis-je. Ton père nous a laissé quelques biens et ce que tu gagnes honnêtement suffira à nous faire vivre, même si le ciel veut bien nous envoyer un enfant. » Je n'avais point plus tôt prononcé cette phrase que je vis mon Herbert devenir d'une pâleur de cire. Je le pris dans mes bras, car je croyais qu'il allait se trouver mal, mais le sang lui revint au visage, et il s'écria avec force. « Oui, il n'y a que cela qui soit vrai, avoir sa conscience pour soi. » Et il s'échappa comme un fou. Quelquefois, il s'absentait un jour, deux jours, pour son commerce, qui consistait, me disait-il, à acheter des lots d'arbres sur pied et à les revendre à des entrepreneurs. Il ne travaillait point par lui-même, laissant aux autres le soin de faire avec les arbres des traverses de chemin de fer si la matière était de moindre qualité, des pieux ou des mâts de navire si cette qualité était supérieure. Seulement, il fallait s'y connaître. Et il tenait cette science de son père. Il ne m'emmenait jamais avec lui dans ses voyages. Il me laissait seul dans la maison avec une vieille servante qui m'avait reçu avec hostilité et dont je me cachais pour pleurer car je n'étais pas heureuse. Herbert, j'en étais certaine, me cachait quelque chose. Une chose à laquelle il pensait sans cesse et dont, moi non plus, qui ne savais rien, je ne pouvais détacher ma pensée. Et puis, cette grande forêt me faisait peur, et la servante me faisait peur, et le père Baxler me faisait peur. Et ce vieux chalet, il était très grand, avec des tas d'escaliers partout qui conduisaient dans des couloirs où je n'osais m'aventurer. Il y avait particulièrement au bout de l'un d'eux un petit cabinet dans lequel j'avais vu entrer deux ou trois fois mon mari, mais où je ne m'étais jamais entré moi-même. Je ne pouvais jamais passer devant la porte toujours fermée de ce cabinet sans frissonner. C'était derrière cette porte qu'Herbert se retirait, me disait-il, pour faire ses comptes et mettre au net ses livres. Mais c'est aussi derrière cette porte que je l'avais entendu gémir tout seul, avec son secret. Une nuit que mon mari était parti pour l'une de ses tournées et que je m'efforçais en vain de dormir, mon attention fut attirée par un léger bruit sous ma fenêtre, que j'avais laissée entr'ouverte à cause de la grande chaleur. Je me levai avec précaution. Le ciel était tout à fait noir et de gros nuages cachaient les étoiles. C'est à peine si je pouvais apercevoir les grandes ombres menaçantes des premiers arbres qui entouraient notre demeure. Et je ne vis distinctement mon mari et la servante que dans le moment qu'ils passaient sous ma fenêtre, avec mille précautions, marchant sur la pelouse pour que je n'entendisse point le bruit de leurs pas, et portant chacun par une poignée une sorte de longue malle, assez étroite, que je n'avais jamais vue. Ils pénétrèrent dans le chalet, et je ne les entendis ni ne les vis plus pendant plus de 10 minutes. Mon angoisse dépassait tout ce que l'on peut imaginer. Pourquoi se cachait-il de moi? Comment n'avais-je pas entendu arriver le petit cabriolet qui ramenait Herbert? À ce moment, il me sembla entendre hennir au loin, et la servante parut, traversa les pelouses, se perdit dans la nuit, et revint bientôt avec notre jument toute dételée qu'elle faisait marcher sur la terre molle. Que de précautions pour ne pas me réveiller! De plus en plus étonné de ne pas voir Herbert entrer dans notre chambre, comme il faisait à chacun de ses retours nocturnes, je passai à la hâte un peignoir et me mis à errer dans l'ombre des corridors. Mes pas me conduisirent tout naturellement vers le petit cabinet qui me faisait si peur.
Bonne nuit. Bonne nuit.